Renaud Alberni, Lady Stanhope. Oh mon Dieu, mais que fait-elle? Ce n'est pas possible. Je rêve. Elle l'embrasse. Lady Stanhope embrasse ce jeune freliquet de Michael Bruce. Caché derrière un oranger, Charles Merion croit défaillir. Une femme comme Lady Stanhope? Qui aurait imaginé ça d'elle? Charles ne peut en croire ses yeux. Et pourtant, c'est indéniable. En cette nuit de juin 1810, alors que la lune se lève dans le ciel étoilé de l'île de Malte, là, dans les magnifiques jardins du palais San Antonio, parmi les fleurs et les senteurs de laurier rose, de bougainvillier, de citronnier, d'oranger, de grenadier, entre deux haies de myrte, Lady Stanhope et Michael Bruce sont enlacés. Merion ne parvient à étouffer un cri où se mêlent l'incrédulité, la stupeur, l'indignation, la rage, la déception et la jalousie. Heureusement, le couple ne l'entend pas. Et d'ailleurs, il l'aurait entendu, que cela ne changerait rien. Lady Hester Lucy Stanhope n'a jamais accordé la moindre importance aux sentiments qui agitent le jeune médecin dont elle s'est attachée les services. Tout comme Elizabeth Williams, la dame de compagnie, ou Anne Frey, la femme de chambre, Charles Merion n'existe guère à ses yeux. Il n'est qu'un employé, un élément du décor, avec lequel voyage toujours une riche aristocrate anglaise. Depuis le 10 février 1810, jour de l'embarquement à Plymouth, le docteur Merion fait partie des choses. Une pauvre petite chose, soupirant après un amour impossible. Blonde, grande, très grande, plus d'1m80, la silhouette élancée, les yeux gris, la peau de nacre, Lady Stanhope est belle. Le cœur de Charles a fondu. Maintenant, il se fige. Non, mais regardez-moi cette femme, toute pétrie de bonne manière, tout imbue de sa condition, se vautrer dans l'herbe, avec un pâle dadé, de 11 ans, son cadet. Ce ne sont pas des façons, surtout pour une personne qui, à 34 ans, est encore vierge. Remarquez, au train où vont les choses, ça ne saurait durer bien longtemps. Quel scandale! Elle qui prétendait être partie en voyage pour oublier un général mort à la guerre avant d'avoir pu l'épouser. Quelle honte! Elle n'a pas été bien longue à oublier son chagrin d'amour. Mais que trouve donc-elle à ce Michael Bruce? Un bel et faible, certes, un fils à papa. Un jeune désœuvré qui, après Eton et Cambridge, achève ses études par quelques années de voyage, ainsi qu'il est de tradition dans les milieux les plus distingués. Malgré toute son acrimonie, Merion ne peut penser que Lady Stanhope ait succombé à la fortune de ce rejeton de bonne famille. Bien sûr, depuis la mort de son oncle William Pitt, le premier ministre de George III, les revenus de l'anglaise ont bien diminué et les 1200 livres de rente que lui a octroyé le roi suffisent à peine à assurer son train de vie. Bien sûr, le père de Michael Bruce, banquier écossais de son état, serait le financier idéal du périple qu'elle compte entreprendre au Moyen-Orient. Mais tout de même, une Stanhope ne s'abaisserait jamais à cela. On a de la fierté dans la famille. Une sacrée fierté qui rend Lady Stanhope hautaine, agressive, impérieuse, cassante, méprisante. Elle fait moins la fière maintenant, dans les bras de son beau coq. Charles est à deux doigts de fondre en larmes. La vie est trop injuste. Pourquoi celui, Merion, qu'elle appelle petit homme, et non ce bellâtre? Pourquoi celui le souffre-douleur, et l'autre l'amant? Merion ne comprend pas. Lady Stanhope est tellement supérieure à Michael Bruce. Intelligente, cultivée, volontiers péremptoire, elle n'a rien à apprendre de ce freluquet. Mais quel plaisir peut-elle prendre en sa compagnie? Charles ne veut pas le savoir. De toute façon, il en a assez vu, assez entendu pour ce soir. Il rentre se coucher. Et qu'on ne vienne pas lui raconter que Lady Stanhope est follement amoureuse de Michael Bruce. Cela lui ferait beaucoup de peine. Sans toutefois lui ôter de la tête l'idée de suivre cette femme jusqu'au bout du monde. Après tout, Lady Stanhope est tout de même sa maîtresse. Deuxième chapitre. En ce 21 février 1813, il n'y a pas une personne au monde qui soit plus dévouée à Lady Stanhope que Charles Merion. Elle voulait aller à Palmyre? Eh bien, il y est parti, il y a 6 semaines, muni pour tout viatique d'une outre d'eau rance, de quelques dattes, de galettes et d'un guide. Aujourd'hui, il revient à Hama, une petite bourgade à 150 km au nord de Damas, où Lady Stanhope l'attend impatiemment. Il ne revient pas seul. Il est accompagné du chef des Bédouins et de 70 de ses cavaliers armés. Charles a tout arrangé. Lady Stanhope est la bienvenue à Palmyre. Vous ne connaissez pas Palmyre? Normal. Presque personne ne connaît Palmyre, la ville mythique de la reine Zénobie, en plein cœur du désert syrien. Une cité que l'on décrit riche de temples et de colonnades, de forteresses et de rues à arcades. Mais rares sont les Européens qui ont pu la visiter en ce début du XIXe siècle. Encore plus rares, les Européennes. Lady Stanhope sera la première. Tout le mérite en revient à l'impérieuse volonté de l'Anglaise, mais aussi à l'abnégation de Merion. Ah, il aura vraiment tout fait pour elle. Ou bien plutôt, elle lui aura tout fait faire. Depuis Malte, elle l'a mené tout d'abord à Athènes. Ils y sont arrivés à temps pour voir Lord Byron, nu comme un ver, plongé dans les flots bleus. Le courant n'est pas passé entre le grand poète et la grande lady. N'en parlons plus. Après la Grèce, la Turquie, où, sur la demande du père de Michael Bruce, Lady Stanhope tente de faire perdre à son jeune amant la vilaine habitude de se ronger les ongles. Elle est aussi chargée de lui dispenser des cours de maintien et d'éloquence. Charles est affligé d'assister à un tel spectacle. Mais enfin, puisque Papa Bruce est si généreux, il faut bien lui être agréable. Enfin, ne nous arrêtons pas. De toute manière, le voyage continue. Le 16 octobre 1811, tout le monde quitte Constantinople. Destination Alexandrie. Et le 27 novembre, au large de Rhodes, c'est le naufrage. Sauvé par des pêcheurs après 2 jours passés sur un minuscule îlot rocheux, Lady Stanhope n'a de cesse de poursuivre son voyage. Qui est chargé d'aller chercher l'argent, les vêtements et tous les effets nécessaires à cela? Charles, bien entendu. Lady Stanhope l'envoie à Smyrne, d'où le serviable docteur revient promptement, avec en prime la Salsette, une frégate de la Royal Navy armée de 42 canons. Merion est parvenu à convaincre le commandant du navire de se dérouter pour accueillir Lady Stanhope à son bord. Celle-ci ne s'en étonne guère. La chose lui paraît tout à fait naturelle et ne mérite en aucun cas que l'on exprime la moindre gratitude à l'égard de Charles. Somme toute, il n'a fait que son devoir, rien de plus. De toute façon, voici déjà la côte égyptienne. Alexandrie, Rosette et le Nil, que toute la petite troupe habillée à l'orientale descend sur une felouque jusqu'au Caire, où Lady Stanhope est accueillie en grande pompe par le pacha Mehemet Ali. L'accueil à Jaffa est beaucoup plus glacé. À Jérusalem, par contre, la grande dame a droit à une escorte de 20 cavaliers en grand uniforme d'apparat et tout le tralala. Pour autant, les fonds commencent à manquer. Papa Bruce rechigne à donner les milliers de livres nécessaires à la poursuite de l'expédition. Qu'importe, on continue. Et à travers la Palestine, on arrive à Damas, puis à Hama, où Mérion est enfin de retour. Après un mois et demi d'absence, mission remplie. Lady Stanhope a déjà trop attendu pour s'éterniser en vains remerciements. De plus, il faut déjà s'activer pour préparer le départ. Lorsque celui-ci survient un mois plus tard, la principale attraction de Hama, ce jour-là, n'est pas ces célèbres norias romaines, des roues géantes qui montent l'eau du fleuve jusqu'à un monumental aqueduc. Non, en ce 20 mars 1813, Lady Stanhope attire tous les regards d'une immense foule massée aux portes de la ville. Fièrement montée sur un pur sang arabe, vêtue comme un bédouin, chaussée de bottes aux éperons d'or, elle précède une escouade de guerriers armée de lances-ornes et de plumes d'autruche. Michael Bruce, Anne Frey, la femme de chambre, Pierre, un Français, cuisinier et prophète, nouveau venu dans la troupe, et Charles suivent, devançant de quelques pas plusieurs dizaines de chameaux lourdement chargés. Après avoir mangé de la poussière et buté sur la pierraille, 6 jours durant, ils touchent au but, Palmyre. Une lance à la main, vêtue d'un burnous flamboyant, Lady Stanhope traverse la cité des morts de la ville. Au sorti de ses ruines, le temple du soleil. Au pied d'immenses piliers, la population de Palmyre brandit des étendards. C'est le signal d'une gigantesque fantasia à laquelle l'Anglaise assiste imperturbable. Un cortège de jeunes filles vêtues de corsages transparents et ceintes de guirlandes de fleurs mène Lady Stanhope au sommet d'un large escalier de marbre. Une enfant l'attend tout en haut et lui pose une couronne sur la tête, déclenchant les cris de joie des bédouins. Lady Stanhope peut sourire. 16 siècles après la légendaire Zénobie, elle est la nouvelle reine de Palmyre. Charles Mérion aura tout fait, mais vraiment tout fait pour elle. Chapitre 3. Il fait frais à Londres en ce mois de juin 1828. Depuis des jours, le soleil ne se montre pas, la lune et les étoiles se cachent. Il pleut. Le nez collé à la fenêtre, le regard détrempé, le docteur Charles Mérion frissonne. Assise dans un fauteuil, Eugénie, son épouse, lève les yeux de son ouvrage. Légèrement inquiète, elle demande à son mari si tout va bien. Celui-ci reste quelques instants le dos tourné, sans répondre. La pluie et le vent battent les carreaux. Dans la pièce tout assombrie, un carillon anglais égrène le temps. Ce n'est rien, ma chérie, rassure-toi. Simplement, cette lettre que je viens de recevoir du Liban me tracasse un peu. Depuis combien de temps Charles n'a-t-il pas eu de nouvelles de Lady Stanhope? 10 ans? Oh non, bien plus! Bientôt 11 ans et demi qu'il a quitté Beyrouth en janvier 1817. Oui, un beau jour il en a eu assez de supporter sa tyrannie. Alors, il est parti. Pourtant, tout de suite, après l'épisode de Palmyre, Mérion a bien cru que son heure était enfin arrivée. À cette époque-là, Lady Stanhope commence à se lasser de Michael Bruce, si bien qu'à l'automne 1813, celui-ci doit regagner l'Europe. La cite Inglésiée, la dame anglaise, comme l'appellent les Bédouins, se voit couper les vivres, mais choisit de rester au Liban. Quelques semaines plus tard, elle attrape la peste. Charles la veille nuit et jour, à force de soins, de patience, et pourquoi ne pas le dire, d'amour. Il parvient à la sauver. Lady Stanhope achève sa convalescence au monastère de Mar Elias, une petite bâtisse accrochée au flanc des montagnes libanaises et dominant la mer. Elle entend aussi se retirer dans cet endroit isolé. Elle entend aussi se faire obéir de son personnel. La reine de Palmyre terrorise tous ses sujets. Miss Frey, Miss Williams, Pierre le cuisinier prophète, les innombrables domestiques bédouins et bien entendu, Mérion. Par ailleurs, elle traite d'égal à égal avec tous les pachas du Moyen-Orient dont elle force le respect. Mieux, le soutien du gouverneur de Tripoli et l'appui de l'ambassadeur anglais à Constantinople lui permettent de partir à la recherche d'un trésor, sous la protection du grand sultan turc Mahmoud II. C'est une belle expédition. Une carte mystérieuse mène Lady Stanhope et sa suite jusqu'à Ascalon, au sud de Jaffa, où ils trouvent la cachette indiquée. Et dans les coffres, rien. Cet échec n'altère en rien la renommée de la reine de Palmyre. Durant le voyage, de retour vers le monastère de Mar Elias, sa cour s'enrichit même d'un nouveau personnage. Encore un Français, encore un prophète, mais un général. Le général Loustonneau, manifestement revenu totalement illuminé d'un trop long séjour dans les Indes. Charles commence sérieusement à se fatiguer de tous les illuminés qui forment l'entourage de Lady Stanhope. Elle verse de plus en plus dans le mysticisme et l'astrologie. Au printemps 1816, il est bien prêt de prendre ses clics et ses claques quand, pour venger le meurtre d'un militaire français par les Bédouins, l'Anglaise convainc le pacha de Saint-Jean d'Acre de châtier les coupables. Bilan, à peu près 300 morts. Cette fois, c'en est trop pour Mérion, qui souffre en silence pendant quelques mois encore, avant de se décider, au printemps 1817, à prendre un peu de distance avec Lady Stanhope. Aujourd'hui, 11 ans plus tard, alors qu'il s'est marié et qu'il a ouvert un petit cabinet à Londres, elle réapparaît dans sa vie. Eugénie, sa douce épouse, à la santé si fragile, esquisse un pâle sourire en s'inquiétant de ce que veut cette femme après si longtemps. Elle m'appelle au secours. Elle n'a plus d'argent, plus de soutien, rien. Apparemment, elle vit en recluse au couvent de Djoun, dans un endroit quasiment inaccessible au sommet des montagnes libanaises, en plein cœur du pays druze. Elle a sans doute dû chasser ou lasser tous ses familiers. Eugénie baisse la tête sur son ouvrage. Que compte donc faire son mari ? Y aller. Madame Mérion veut protester. Lui désire ne rien entendre. Non, il ne changera pas d'avis. Non, il n'abandonnera pas Lady Stanhope. Et il n'abandonnera pas sa femme à Londres non plus. C'est décidé. Il l'emmène. Il va lui faire découvrir cet Orient dont il ne cesse jamais de parler. Le docteur n'est pas riche. Aussi, le temps d'économiser l'argent du voyage, ce n'est que 2 ans et demi plus tard, le 30 novembre 1830, qu'il débarque à Beyrouth en compagnie de Jenny. Le chemin qui les mène à Djoun traverse la vallée toute verdoyante du Liban avant de s'élever au milieu de collines désolées et de gravir des montagnes de roches blafardes dépouillées de terre et de végétation. Enfin, au bout d'une longue plaine stérile, une montagne isolée, couronnée d'arbres et de bosquets. Djoun. Au sommet, un assemblage confus et bizarre de 10 ou 12 maisonnettes, sombres, sans fenêtres, pleines de cours, de jardinets, de marches et de chausse-trappes. L'entrée en est interdite à Madame Mérion, qui n'est pas la bienvenue. Pendant 2 mois, Lady Stanhope reçoit quotidiennement Charles dans une pièce obscurcie par la fumée. Il ne la distingue pas bien. Elle lui semble toujours belle. Des heures durant, il l'entend soliloquer, brasser de grandes idées théologiques, annoncer le retour du Christ, parler de l'influence des étoiles sur la destinée humaine. Déliré. Au début du mois de mars 1832, les époux Marion réembarquent à Beyrouth. Jamais plus, Charles n'ira rejoindre Lady Stanhope. Elle est allée beaucoup trop loin. Elle a vraiment dépassé toutes les bornes. Note. Jusqu'à sa mort, le 20 ou 23 juin 1839, c'est selon les historiens, Lady Stanhope vivra recluse dans le monastère de June, accueillant et protégeant les réfugiés de la guerre qui oppose le sultan turc et l'émir du Liban sur les terres libano-syriennes. La paix est de courte durée et bientôt c'est au tour des Égyptiens de s'attaquer aux Turcs. Les civils continuent à souffrir et Lady Stanhope à les protéger. Dans un autre registre, il est de bon ton pour les Européens qui passent dans la région de venir rendre visite à Lady Stanhope. Ainsi, Lamartine qui a eu avec elle de très édifiantes conversations religieuses. Beaucoup plus trivialement, Lady Stanhope mourut pauvre et couverte de dettes. Née le 22 mars 1776, elle s'éteignit à 63 ans. Documentation. L'essentiel des infos de ce texte proviennent d'une très très bonne biographie intitulée « La vie extraordinaire de Lady Stanhope, la vraie châtelaine du Liban » par Thierry Boissel aux éditions Albin Michel, 1993. Ce bouquin est tout à fait recommandable. Tout à fait recommandable aussi le voyage en Orient de Lamartine. J'ai travaillé, dit Renaud Alberni, sur une édition de 1886. Je pense qu'il doit en exister de plus récentes. On peut lire enfin La Châtelaine du Liban, un roman de Pierre Benoît inspiré par Lady Stanhope et disponible en poche. Fin du texte et des notes de Renaud Alberni, Lady Stanhope.